France Culture.
On fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on se rendra dès le début du journal en Allemagne où l'extrême droite a triplé son score hier à l'occasion d'élections locales dans l'ouest du pays. Lundi à Matignon et mercredi dans la rue, les syndicats sont à nouveau invités à dialoguer avec le Premier ministre avant la grande mobilisation du 18 septembre. On tâchera avec notre invité de décrypter la stratégie de Sébastien Lecornu dans la perspective de la formation de son gouvernement. À suivre également les débats sur la fin de vie à l'occasion du procès aujourd'hui de plusieurs militants en faveur du suicide assisté. Toujours au chapitre judiciaire, trois femmes, trois revenantes de Syrie comparaissent depuis ce matin à Paris pour association de malfaiteurs terroristes. On verra par ailleurs comment la multiplication des incursions de drones venus de Russie favorise les partisans d'une défense européenne. Enfin, on s'intéressera à cette initiative de plusieurs dizaines d'ONG qui appellent à suspendre à partir d'aujourd'hui le commerce de grandes entreprises avec les colonies israéliennes. Ces élections locales étaient considérées comme un premier test d'envergure quelques mois seulement après le scrutin dont est issu le gouvernement de l'actuel chancelier allemand Friedrich Merz. Hier étaient organisées des municipales dans la région industrielle de Rhénanie du Nord-Westphalie, soit le land le plus peuplé du pays, près de 14 millions d'électeurs traditionnellement acquis aux conservateurs et aux sociodémocrates. Et de fait, la CDU y a maintenu son score avec un peu plus de 34% des voix, tandis que le SPD a lui très légèrement baissé à 22%. De leur côté, les Verts ont chuté. En revanche, le parti d'extrême droite, AfD, y a obtenu un résultat historique, 16,4% contre 5% il y a un an. C'est trois fois plus. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, comment Sébastien s'explique cette percée fulgurante outre-Rhin ?
Alors c'est en tout cas un scénario, Thomas, que l'on connaît bien désormais en Allemagne. À chaque élection, ou presque, qu'elle soit locale, régionale, nationale, eh bien l'extrême droite progresse de façon spectaculaire. Et le scrutin d'hier n'a pas échappé à la règle. Plus 10 points pour l'AfD par rapport au précédent scrutin. Dans cette région où plusieurs villes faisaient pourtant figure jusqu'à présent de fiefs de gauche imprenables. À Duisbourg, 500 000 habitants frappés par la crise industrielle, l'AfD recueille 20% des voix et se qualifie pour le second tour. Même chose à Gelsenkirchen, toujours dans la Ruhr, où le candidat d'extrême droite, 30% au premier tour, promet de rétablir la propreté, l'ordre et la sécurité. Longtemps, c'est un fait, le parti créé en 2013 est resté cantonné dans l'est du pays, sur les terres en fait de l'ancienne RDA communiste. Mais depuis quelques années, l'AfD progresse aussi dans l'ouest en faisant prospérer ses thèmes de prédilection. L'immigration, l'insécurité, la crise du logement, l'inflation, ce sont là les principaux sujets de préoccupation de la population, si l'on en croit les sondages, en particulier dans la Ruhr. Confronté à un taux de chômage élevé et à l'arrivée depuis 10 ans de nombreux réfugiés syriens et afghans. Ce matin, les cadres de l'AfD se félicitent de leur succès. Ils considèrent que les résultats viennent conforter leur ligne politique. De son côté, le président de Rhénanie du Nord-Westphalie, membre du parti conservateur comme le chancelier Friedrich Merz, s'est dit profondément préoccupé.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Présenté comme un rassemblement pour la liberté d'expression, la manifestation d'extrême droite organisée hier au cœur de Londres se voulait très clairement une manifestation anti-immigration et anti-islam organisée à l'appel d'un activiste récidiviste issu de la mouvance hooligan. L'événement a réuni jusqu'à 150 000 personnes dans les rues de la capitale britannique. Lui s'était présenté en rempart justement à la montée de l'extrême droite. Lui c'était Emmanuel Macron, sauf que le désordre actuel, la disparition du fait majoritaire issu de la dissolution combinée au caractère abyssal de la dette a vite fait de souffler au contraire dans les voiles du Rassemblement National, sans compter que privé de sa victoire l'an dernier, le Rassemblement National a fin de revanche. Hier, lors d'un meeting à Bordeaux, aux aires de pré-campagne législative, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont promis à leurs électeurs la censure de Sébastien Lecornu dans quelques semaines ou quelques mois. De son côté, le Premier ministre espère toujours faire adopter un budget avec la bienveillance des socialistes, reste malgré tout à convaincre pour éviter une censure. Le chef du gouvernement recevra mercredi les responsables du PS suivis des écologistes et des communistes. Toujours est-il que face à ces offres appuyées de dialogue, Sébastien Lecornu se retrouve à présent sous les pressions conjuguées donc à la fois des oppositions mais aussi des mouvements sociaux qu'ont fait la mobilisation du 18 septembre. Les agriculteurs, la FNSEA, appelant pour sa part à une grande journée d'action le 26 septembre et jusqu'aux patrons qui menacent également à leur tour de se mobiliser.
En attendant, le Premier ministre poursuit poursuit ses consultations avec les partenaires sociaux.
Oui, après avoir ouvert le bal vendredi avec la CFDT et les organisations patronales, ce matin, la CGT était reçue à Matignon, suivront la CFTC, la CFE-CGC et la CPME. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université Bourgogne-Europe, par ailleurs chercheur au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Bien qu'ayant déjà reçu les représentants politiques de sa coalition naturelle, Sébastien Lecornu a donc choisi de recevoir les partenaires sociaux avant de consulter les autres forces politiques issues de l'opposition. Comment est-ce que vous comprenez ce choix singulier, plutôt étrange, de la part du Premier ministre ?
Alors c'est vrai que les syndicalistes, les représentants des confédérations ont été pas mal reçus ces derniers temps par le gouvernement. Déjà par Bayrou, il n'y a pas si longtemps que ça, et donc à nouveau par le nouveau Premier ministre. Je pense qu'en fait, l'idée de Sébastien Lecornu, c'est de trouver des leviers pour obtenir, la neutralité du PS, à la fois pour former son gouvernement et pour préparer son budget, neutralité concernant la censure. Son prédécesseur Bayrou avait trouvé ce levier en ouvrant un conclave sur les retraites qui finalement n'avait pas abouti, ça avait été un échec et ça a été finalement la cause de l'échec du gouvernement, ce qu'on oublie finalement, sans doute encore plus que le rejet des mesures budgétaires qu'il avait prévues. On peut dire que la fin du gouvernement a été actée dès juin dernier par l'échec de ce conclave. Et donc, l'actuel Premier ministre consulte de nouveau les syndicats parce qu'il connaît les liens qui existent entre les syndicats et la gauche, notamment le Parti Socialiste. Et donc, est-ce que sur le plan social, on pourrait trouver justement des leviers? On sait que les syndicalistes sont très remontés contre ce qu'ils appellent des brutalités sans précédent auxquelles avait songé Bayrou, toute une série de réformes sociales pour trouver l'équilibre budgétaire, ou en tous les cas commencer à réduire le déficit. Tout est sur la table, toute une série de sujets de mécontentement. Bon, on sait déjà que le Premier ministre a déjà rétro-pédalé sur un certain nombre de sujets qu'avait mis sur la table Bayrou, notamment les jours fériés, les deux jours fériés qui seraient travaillés. Et on sait également qu'il annonce qu'il y aurait une taxation spécifique des plus hauts revenus auxquels il songe. Et ça, ça peut satisfaire à la fois les syndicalistes, qui appellent à une nouvelle mobilisation ce mercredi et qui ont mis en haut des revendications, justement, cette taxation spécifique. Et on sait que c'est également une demande des socialistes. Donc voilà, il y a ça à négocier.
Depuis la dissolution voulue par le président Emmanuel Macron et la situation donc de blocage politique qui en découle, les différents premiers ministres successifs ont souvent usé de la référence à la démocratie sociale. Pour autant, est-ce que les syndicats ont tiré jusqu'à présent un quelconque avantage de cette référence?
Alors en fait, la démocratie sociale, c'est en France un concept qui est pas si clair que cela. Les relations entre le gouvernement et les syndicats sont souvent asymétriques. C'est plus une fausse démocratie sociale qui est pratiquée qu'une véritable. Et on en a encore un exemple récemment. Je reviens à l'actualité immédiate. Puisque en fait, on parle de démocratie sociale, mais c'est le gouvernement qui fixe pour les discussions avec les syndicats des feuilles de route extrêmement précises. Et là, par exemple, tout en recevant à Matignon les représentants des confédérations, il y a cette feuille de route qui existe et notamment qui prévoit de discuter une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Et les choses sont extrêmement cadrées dans cette feuille de route. Hein, il n'y a pas que le sujet qui est annoncé. Et les syndicalistes on fait part au Premier ministre qu'ils sont en désaccord, et notamment Marie-Lise Léon de la CFDT, probablement que Sophie Binet a fait la même chose ce matin quand elle a été reçue par Lecornu, sont en désaccord complet sur le contenu de cette feuille de route, à telle enseigne qu'ils envisagent même de faire un recours au Conseil d'État contre la feuille de route. Donc pour vous dire combien on en est finalement en France, malgré ce concept de démocratie sociale, une espèce d'année zéro de la démocratie sociale, où, enfin je caricature un peu, mais en fait, ces démocraties sociales restent très largement, ça reste un défi, il reste à construire, puisque voilà, il y a des discussions qui sont engagées, mais il y a des désaccords profonds sur ne serait-ce que la manière dont les sujets vont être abordés lorsqu'on va rentrer dans le détail de certaines discussions.
C'est bien compris. Merci Dominique Andolfato, donc professeur de sciences politiques à l'Université Bourgogne-Europe, chercheur aussi au Centre de recherche et d'études en droit et sciences politiques, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Quand le monde clandestin du suicide assisté se retrouve au cœur d'un procès à Paris.
Oui, 12 militants de l'aide à mourir sont jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir aidé des personnes, malades ou non, à se procurer des barbituriques afin de mettre fin à leur jour. Âgés de 74 à 89 ans, les prévenus, tous adhérents de la discrète association Ultime Liberté, sont pour beaucoup des enseignants retraités au casier judiciaire vierge et qui espèrent donc, en s'attaquant à un tabou, cette audience sera aussi l'occasion de sensibiliser l'opinion publique aux problématiques de la fin de vie. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Pour tous les prévenus, Anne, les évolutions législatives en cours ne vont pas assez loin.
Oui, alors d'abord revenons sur cette association Ultime Liberté. Elle a été créée en 2009 et elle vient d'une scission de la frange la plus radicale de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Elle revendique un droit à un suicide serein, que l'on soit ou non malade. En fait, ses membres se situent dans la continuité des mouvements militants des années 60 en lien avec l'accès à la contraception ou à l'IVG. Leurs actions s'inscrivent dans de la désobéissance civile. D'ailleurs, tous reconnaissent les infractions reprochées. Pour la présidente de l'association, Claude Hury, par exemple, avoir donné des explications à des adhérents pour commander le barbiturique au Mexique ou encore pour les avoir épaulés sur Internet pour commander. Ils sont convaincus de leur combat, comme l'explique Michel Denis, l'un des prévenus interrogé par Arthur Blanc, notre confrère d'ici Sud-Lorraine.
Vous avez des personnes qui sont atteintes de certaines maladies, notamment des maladies dégénératives, qui ne sont pas en fin de vie. Et donc, la loi considère que n'étant pas en fin de vie, on peut rien faire pour eux. C'est pour ça que je dis que c'est de la survie. Ce n'est plus de la vie. Et ces personnes-là, la loi actuelle et même la future ne couvriront pas leurs besoins. Donc, on estime que, en tant que citoyen, nous devons agir, même si c'est de la désobéissance civile, mais on doit agir pour aider ces personnes-là à mourir dignement, sereinement, sans douleur, et quand elles l'auront choisi.
Dans ses réquisitions, le procureur a dit qu'il n'était pas question de faire le procès de la fin de vie. Il y a aussi des éléments à charge dans cette affaire. La majorité des prévenus n'avaient pas de compétences médicales. Il y a au moins une trentaine de victimes, aujourd'hui donc décédées, victimes de ce trafic de barbiturique dénoncé par l'ordre des pharmaciens, partie civile dans cette affaire.
Merci Anne Fauquemberg.
On les appelle les revenantes de Syrie.
Oui, trois femmes comparaissent depuis ce matin à Paris devant une cour d'assises spécialement constituée pour juger les affaires de terrorisme. Toutes sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes pour être parties en Syrie, donc avec leurs enfants et leurs compagnons qui comptaient rejoindre les rangs du groupe État islamique. Elles encourent chacune 30 ans de réclusion criminelle. Parmi elles, Jennifer Klein, 34 ans, mère de 5 enfants et dont les deux oncles, considérés comme morts, étaient notamment les voix de la revendication des attentats du 13 novembre. Alors, la question des enfants, des accusés au nombre de 9 au total, et tous encore mineurs, occupera évidemment une place particulière dans ce procès. À ce titre, je vous propose d'écouter Natacha Guillou-Vandal de l'association SOS Victimes 93, partie civile dans ce procès. Elle répond à Florence Turme.
Le rôle de SOS Victimes, en sa qualité d'administrateur ad hoc, est de porter la voix de l'enfant et de préserver ses intérêts dans le cadre de ce procès et de faire entendre les traumatismes qu'ils portent, expliquer ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu vivre et faire un bilan sur comment ils vont aujourd'hui. C'est important parce que ces enfants, avant tout, restent des enfants, qu'ils sont victimes du choix de leurs parents. Ils n'ont rien demandé. Les parents, à un moment, ont décidé de les emmener sur une zone de guerre et les exposer à des choses extrêmement compliquées. Ce sont des images qui, pour certains, vont rester gravées à jamais dans leur mémoire. Et dans d'autres dossiers, on a pu voir des enfants qui, après des années de retour de zone, portent des traumatismes tels que ne pas supporter les feux d'artifice du 14 juillet, ne supportent pas le bruit d'un avion ou se cachent sous la table quand ils entendent une alerte intrusion. Ces traumatismes dont je pense qu'il est important de parler et de les replacer, peu importe le parcours de leurs parents, de les replacer eux dans leur statut et leur qualité de victime.
Voilà, et je précise donc que ce procès doit durer 2 semaines avec un verdict attendu le 26 septembre.
Midi passé de 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Après que l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté ce vendredi dernier à une majorité écrasante une déclaration aux aires de feuille de route pour la solution à 2 États entre Israël et la Palestine, l'isolement du gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou et de son allié américain sur cette question cruciale apparaît plus criant que jamais. Les images hier du Premier ministre israélien accompagné du secrétaire d'État Marco Rubio priant pour la paix devant le mur des lamentations ne devrait en rien remettre en cause ses velléités d'annexer l'enclave dévastée comme d'étendre la colonisation en Cisjordanie occupée. De leur côté, dirigeants arabes et musulmans ont prévu de se retrouver aujourd'hui en sommet à Doha au Qatar pour exhorter la communauté internationale à cesser le deux poids deux mesures avec Israël.
Enfin, toujours à partir d'aujourd'hui, une vaste et surtout inédite coalition de plus de 80 ONG européennes a choisi de lancer une campagne intitulée « Stop au commerce avec les colonies ».
Oui, sur la base de travaux de l'ONU, elles accusent une dizaine de grandes entreprises jugées emblématiques de soutenir de manière directe ou indirecte l'occupation israélienne, laquelle s'est fortement accélérée ces 2 dernières années, et notamment Annabelle Grelier en continuant leurs activités donc dans les colonies.
Carrefour France, la société de voyage eDreams Opodo en Espagne, le groupe allemand TUI, le britannique JCB ou encore Siemens, Maersk et la banque Barclays sont cités pour des partenariats, des transports ou des financements liés aux colonies israéliennes. Actuellement, les produits venant des colonies peuvent être importés en Europe à condition de ne pas bénéficier des tarifs préférentiels de l'accord UE-Israël. Les ONG demandent à l'Union européenne et au Royaume-Uni d'interdire tout commerce avec les colonies israéliennes en se référant à l'avis de la Cour internationale de justice, datant de juillet 2024, qui impose aux États de ne pas entretenir de relations économiques renforçant cette occupation. Louis-Nicolas Jandot, d'Oxfam France.
On attend vraiment une action des États. Aujourd'hui, le commerce avec les colonies israéliennes est illégal, viole le droit international et rend les États et les entreprises, d'une certaine façon, partie prenante dans cette occupation illégale. Donc on attend l'adoption d'une législation dans tous les pays concernés. On voit qu'il y a des projets qui ont été déposés au Portugal, par exemple, en Irlande. Il faut mettre fin à tout soutien, qu'il soit financier, commercial, diplomatique, militaire, logistique, qui va alimenter cette occupation illégale. Et puis maintenant, il faut inverser la situation. Et donc, la dernière étape aussi pour nous, c'est de suspendre ou à minima réviser tous les accords commerciaux avec Israël tant que le pays ne respectera pas le droit international.
À noter que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, représentant environ 32% du commerce total de marchandises, soit environ 42 milliards d'euros par an.
Jusqu'où ira la volonté indiscutable du président Vladimir Poutine d'apeurer les Européens après ses multiples opérations de désinformation pour diviser les démocraties du vieux continent? Le maître du Kremlin serait-il prêt à une confrontation directe pour concrétiser son rêve de reconstitution d'une grande Russie après l'incursion la semaine dernière de drones en Pologne? Voilà qu'une nouvelle intrusion ce week-end dans le ciel roumain, cette fois-ci, fait craindre à nouveau le pire ou à tout le moins contribue nécessairement à une forme d'escalade des menaces sur la sécurité régionale. Alors, il se trouve que l'Union européenne doit présenter aujourd'hui un 19e train de mesures contre Moscou comme un moyen supplémentaire de forcer Vladimir Poutine à mettre un terme à sa guerre en Ukraine, quitte à devoir faire les frais d'une nouvelle guerre commerciale avec la Chine d'un côté, alliée de la Russie, et les États-Unis de l'autre, qui rechigne, on le sait, à adopter de nouvelles représailles. Seule certitude, de plus en plus, les nerfs des Européens sont donc mis à rude épreuve par le Kremlin, et c'est ainsi que les partisans du réarmement de l'Europe en tirent désormais un argument pour plaider une nouvelle fois en faveur d'une hausse des dépenses militaires, en particulier Fabien Cazot, dans les domaines où les faiblesses européennes apparaissent désormais au grand jour.
Parmi les domaines jugés prioritaires dans le plan ReArm EU présenté par la Commission européenne au printemps dernier, il y a justement l'équipement des pays membres en drones et en systèmes anti-drones. Face aux besoins croissants, l'industrie européenne a du mal à suivre. Les pays qui en ont le plus urgemment besoin le long des frontières orientales de l'Europe s'approvisionnent pour le moment en dehors de l'Union européenne. Peu importe de savoir si les incursions de drones russes sont volontaires ou non, elles confirment la nécessité, selon les partisans du ReArm gouvernement européen d'y consacrer rapidement d'importants moyens budgétaires. À Bruxelles, les experts de défense et de sécurité ont le sentiment que la Russie cherche en ce moment à tester la fermeté des réponses occidentales, à la fois de la part de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, dont le secrétaire général Mark Rutte a annoncé vendredi le lancement d'une opération baptisée Sentinelle orientale pour renforcer la surveillance de l'espace aérien européen.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux du sud-ouest au nord-est, partout ailleurs le ciel devrait bénéficier de belles éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.